Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous. Parfois, il faut se dire les choses. Les temps sont décidément très durs pour l'activité touristique au Maghreb, notamment au Maroc. Et c'est vrai que toutes les mesures qui ont été prises de reconfinement, de prévention des variants du coronavirus, eh bien, ces mesures sanitaires absolument nécessaires ont un impact économique. Les recettes touristiques ont chuté de 65% au cours des deux premiers mois de l'année 2021. Une donnée qui est indiquée par la direction des études et des prévisions financières. Ce sont des chiffres qui sont tout à fait significatifs, qui disent l'ampleur de la crise économique ainsi que des métiers qui sont connexes. On se souvient des mesures de soutien qui ont été prises récemment pour les guides touristiques, aussi pour les infrastructures de transport, pour les bus qui transportent les touristes ou qui les transportaient et qui aujourd'hui sont au garage et qui ne savent pas quand le travail va pouvoir reprendre. Donc des chiffres toujours très inquiétants des recettes touristiques au Maghreb, fortement impactées par la crise sanitaire. À ceux qui en doutaient encore, la situation sanitaire en Tunisie est absolument dramatique, avec ce geste peut-être même de désespoir des étudiants de la faculté de droit et de sciences politiques dans la ville de Sousse. Ils ont décidé de boycotter leurs examens qu'ils étaient censés passer cette semaine. Pourquoi ? Eh bien, en raison de l'absence du moindre moyen d'application du protocole sanitaire. C'est ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas de mesures de sécurité, de gestes barrières, d'infrastructures de nature à protéger les étudiants de la propagation du coronavirus. Résultat, ils ont préféré ne pas aller à l'examen plutôt que de risquer d'être contaminé. Les lenteurs de la campagne de vaccination, le doute quant à la disponibilité du produit, les files d'attente devant les unités de soins, est-ce qu'on va avoir la première, la deuxième injection, point d'interrogation, beaucoup de critiques, beaucoup de regards se tournent vers l'autorité gouvernementale tunisienne, se demandant mais comment se fait-il que le pays soit autant en retard, la situation est-elle, la saturation est-elle dans nombre de régions, nombre d'unités sanitaires, qu'aujourd'hui il y a d'anciens médecins qui se disent prêts à reprendre la blouse blanche, même à titre tout à fait bénévole, pour aller donner de l'aide, pour aller donner un coup de main, comme on dit, de façon un peu familière, mais aussi de façon très conviviale et de façon bienveillante. Oui, donner un coup de main, c'est le geste qui est proposé par des médecins qui aujourd'hui se disent prêts à venir aider les autorités sanitaires tunisiennes qui visiblement n'arrivent pas à faire face au défi sanitaire du coronavirus. C'est un chiffre colossal, 1 milliard de dollars, la somme qu'il faudrait débourser pour aider la compagnie Air Algérie à sortir de la crise qui est provoquée par le coronavirus. Il faut réussir à payer les salaires des 10 000 employés. Il y a les charges courantes de la compagnie aérienne parce que même lorsque les avions ne volent pas, il faut les entretenir au sol. Il y a les frais de parking qui sont tout à fait importants. Et puis un jour viendra, le coronavirus sera derrière nous, le vaccin sera passé par là, la compagnie devra reprendre ses activités commerciales et à ce moment-là, il faudra l'aider, lui apporter des fonds pour qu'elle puisse se développer. 1 milliard de dollars, c'est une estimation qui est faite de l'argent qui devrait être déboursé. D'aucuns au sein de la compagnie se demandent si l'État ne pourrait pas faire quelque chose, par exemple procéder à des mises à la retraite de travailleurs qui ont atteint l'âge de 56 ans ou en tout cas essayer d'envisager des mécanismes sociaux pour essayer d'alléger les frais et de permettre à la compagnie de se sortir de ce mauvais pas. L'Irak est décidément un pays bien courtisé. Aussitôt, les Américains annonçant le départ de leurs forces dans le cadre d'un nouvel accord de coopération stratégique entre Bagdad et Washington, le vice-premier ministre russe Yuri Borisov est arrivé à Bagdad pour faire le point sur les relations stratégiques entre les deux pays, faire le point sur ce qu'est la présence iranienne sur le théâtre irakien et puis voir comment les deux pays pays peuvent s'organiser pour travailler ensemble. Ils ont un ennemi commun qui est celui du groupe État islamique. Les Russes sont très mobilisés sur le théâtre syrien. Beaucoup de sorties de l'aviation militaire russe pour frapper des campements, des zones qui sont tenues par le groupe État islamique. L'Irak est soumise, mais dans une moindre mesure, à la menace du groupe État islamique. La Russie vient voir comment améliorer les relations entre les deux pays sur le volet sécuritaire. La date prévue était le 24 avril. C'est la date qui avait été retenue par les Turcs pour organiser une nouvelle conférence sur le conflit afghan, essayer de résoudre la solution sécuritaire dans ce pays qui est traversé par plusieurs décennies de guerre. Or, depuis que les Américains ont annoncé leur retrait définitif, ce sera pour le 11 septembre prochain. Les talibans ne veulent plus participer à des cycles de discussions, estimant qu'ils le feront uniquement lorsque les Américains seront totalement partis. D'ici là, ils ne veulent plus. Ils pratiquent la politique de la chaise vide. Les Turcs pensaient qu'ils pourraient maintenir ce cycle de discussions, ne serait-ce pour envisager ce qui se passera en Afghanistan après le 11, ne serait-ce le 12, 13, 14 septembre 2021. Envisager l'avenir. Pour l'instant, les talibans reste sur une position extrêmement ferme. Tant que les Américains ne sont pas partis, ils ne participent pas à des pourparlers. Résultat, les Turcs ont dû abandonner le cycle de négociations qu'ils avaient prévu pour le mois d'avril. Et juste d'un mot pour terminer ce tour du monde, signalons cette réunion qu'il y a eu entre la Turquie, l'OTAN et les États-Unis. Ils ont parlé de la Libye. C'était une réunion dont on ne sait pas ce qu'il s'est vraiment dit, mais en tout cas, on peut se souvenir que ces réunions Turquie, OTAN, États-Unis ont déjà eu lieu. L'une d'entre elles, même si on n'a jamais eu la confirmation officielle, mais l'une d'entre elles avait abouti à un accord, les Turcs s'étant engagés à retirer leurs mercenaires actuellement basés en Libye. On sait que cet accord n'a pas été tenu. Et par ailleurs, on sait que la Turquie et les États-Unis ont convenu ensemble de la nécessité d'avoir des drones de surveillance aérienne, notamment pour travailler sur les positions qui sont actuellement tenues par le groupe militaire russe Wagner. Cette réunion a eu lieu pour l'instant. On n'a pas encore d'écho quant au contenu précis des discussions qui ont lieu.
Ce proche Proche-Orient si loin de nous.
Arrêtons-nous quelques instants en Israël avec cette initiative pour le moins inédite, voire exceptionnelle. 2000 anciens responsables militaires et sécuritaires israéliens se sont réunis sous le nom Forum israélien de la défense et de la sécurité. Ils ont décidé d'écrire une lettre, et pas n'importe qui, une lettre au locataire de la Maison Blanche, le président Biden. Puisque tout le monde le sait, l'administration Biden réfléchit actuellement à un retour de l'Amérique dans un accord sur le nucléaire iranien. Les Israéliens sont totalement opposé à cette initiative. D'ailleurs, il y a un débat en Israël. Certains pensent qu'il faudrait aménager un accord. D'autres pensent qu'il faut refuser tout accord avec les Iraniens sur la question du nucléaire. Et là, ces 2000 anciens responsables militaires israéliens demandent à Washington d'être très vigilant quant à la démarche qui est en cours. Ils demandent à ce que l'Amérique prévoie des procédures de vérification draconienne des engagements que pourrait prendre l'Iran quant à ses activités d'enrichissement nucléaire. On sent beaucoup d'inquiétude dans cette lettre. 2000 anciens responsables, c'est beaucoup, mais cela vient aussi contrecarrer certaines voix qui se sont fait entendre ces dernières semaines, des voix israéliennes qui remettaient en cause la posture du Premier ministre Netanyahou, qui est très dur face à l'Iran, d'aucuns se demandant si cela était tout à fait utile. Donc cette lettre doit être analysée dans ce contexte général d'un débat en Israël sur la posture à adopter face aux négociations futures sur le nucléaire iranien.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.